Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Une primaire à gauche, la proposition d'Anne Hidalgo. Personne n'en veut, mais le PS insiste. Olivier Faure, premier secrétaire du parti, rencontrait ce matin les organisateurs de la primaire populaire en ligne. Peut-il y avoir encore une union de la gauche à la présidentielle? Le porte-parole de la primaire populaire est notre invité. La pression sanitaire est de plus en plus forte. Ça s'accélère, dit le ministre de la Santé, en pleine cinquième vague de Covid. Les hôpitaux en plan blanc dans 6 régions, plus une série de métropoles et bientôt au plan national. Notre invité à 13h30 sera François Crémieux, directeur général de l'APHM à Marseille. Les hôpitaux tiendront-ils le choc? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions. Parmi les sujets, le manque de personnel soignant. À l'Institut de cancérologie d'Avignon, on rame pour recruter, comme tout le monde.
Avant, il nous fallait 3 mois pour recruter un personnel médical quand on ouvrait le poste. Maintenant, il nous faut plutôt 2 ans.
2 ans, nous entendrons le témoignage du président de l'Institut. Côté vaccin, pour accélérer les choses, les pharmacies pourront ouvrir le dimanche. Dans l'actualité encore, le couac au gouvernement, boycott diplomatique des JO de Pékin. Non, répond Jean-Michel Blanquer. Nous sommes sur une position européenne, dit Jean-Yves Le Drian, qui corrige donc son ministre. Les atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées en hausse par rapport à la dernière étude. Amélie Mauresmo, première femme à la tête de Roland-Garros. Et puis vos rendez-vous dans le 13-14, le vif de l'histoire, en scène semaine de reprise, de remise des Nobel, Freud et le Nobel, histoire impossible. Et dans C'est une chanson, une idée de cadeau pour Noël, un coffret Brassens avec des inédits. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
À travers les grandes compétitions sportives, ne se jouent pas que des médailles et des titres. Ce sont aussi des événements diplomatiques ou de nature à faire bouger les lignes dans les sociétés. Question par exemple, malgré les multiples entorses aux droits de l'homme en Chine, faut-il assister comme si de rien n'était aux JO d'hiver de Pékin en février ? Après les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont décidé un boycott diplomatique. Leurs sportifs seront à Pékin, pas les représentants officiels. Et la France ? Réponse de Jean-Michel Blanquer ce matin, lui qui est ministre de l'Éducation nationale et des sports aussi.
La France ne le fera pas, mais je tiens à dire que le sport est un monde en soi qui doit être préservé au maximum des interférences politiques. Sinon, ça peut partir dans n'importe quelle direction. Et on finira par tuer l'ensemble des compétitions. Donc, il faut condamner les violations des droits de l'homme en Chine, parce qu'il y en a et elles doivent être condamnées. Maintenant, il faut savoir, s'agissant des compétitions sportives, avoir l'attitude adéquate et adaptée. Cela dit, je n'irai pas à Pékin en tant que ministre des Sports. Roxana Maracineanu ira, de même Sophie Cluzel ira au titre des Jeux Paralympiques, mais nous aurons des messages qui sont clairs sur le plan politique.
Jean-Michel Blanquer sur BFM ce matin, message clair, c'est pas sûr, pas de boycott diplomatique, dit-il. Il s'est peut-être avancé un peu vite. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a tenu un discours différent dans la foulée, Franck Madvon.
Oui, la question du boycott diplomatique des Jeux de Pékin a en effet été posée ce matin à Jean-Yves Le Drian, qui recevait la nouvelle chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, et le ministre français des Affaires étrangères continue, lui, à parler de concertation européenne. Sur le sujet, il s'en explique.
C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en disant, voilà la position que nous pensons qui doit aboutir à la fin de la concertation. Donc nous sommes pour qu'il y ait une position commune dont nous allons mesurer l'ensemble des enjeux lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères ou dans une réunion suivante, mais cette question-là doit être traitée en européen.
Le sujet pourrait donc être abordé lundi, Bruno, lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères des 27. La semaine dernière, Annalena Baerbock, candidate des Verts, on le rappelle, aux élections de son pays, n'avait pas exclu un boycott des Jeux de Pékin. Ce matin, la ministre allemande a tenu les mêmes propos que Jean-Yves Le Drian. On veut une position commune. On comprend entre les lignes que la ligne française de ne pas boycotter les Jeux de Pékin est en passe de l'emporter. Pour Paris, il faut être ferme dans les discours vis-à-vis de la Chine, mais dans les actes, c'est une autre histoire. Et de toute façon, le sport est un cas particulier. Même si une position commune est adoptée au sein de l'UE, chaque pays pourra trancher sur son niveau de représentation.
Et on verra si Emmanuel Macron aborde la question cet après-midi lors de sa conférence de presse. Les compétitions et leurs enjeux autres que sportifs. Autre illustration ce matin. Pour la première fois, une femme va diriger Roland-Garros. Amélie Mauresmo est nommée directrice du tournoi après la démission de Guy Forget. Écoutez-la, quels enjeux, que veut-elle faire à la tête de ce tournoi ?
L'idée, c'est vraiment d'être au plus proche, bien sûr, des joueurs, des joueuses, de leurs entourages. De ne pas se cantonner, finalement, simplement à l'aspect sportif. Moi, je vois bien un événement en lien avec le sportif, c'est le remplissage du stade, les loges, les sessions de nuit qui vont arriver. On l'espère, on croise les doigts, si le Covid ne s'en mêle pas, qu'on se doit de réussir. On ne peut pas se satisfaire en fait, de ce qu'on a jamais, quand on est un événement en tout cas de cette ampleur-là. Soit en France, à l'international, on doit faire rêver les enfants, etc. Je dis pas que c'était pas le cas, je dis qu'on va essayer de le pousser encore plus loin.
Amélie Mauresmo, la joueuse aux deux victoires en Grand Chelem, qui devient donc directrice de Roland-Garros au micro de Fabrice Abgral. La situation sanitaire abordée sans doute en conférence de presse d'Emmanuel Macron cet après-midi. Olivier Véran était sur France 2 ce matin. Les plans blancs se multiplient dans les hôpitaux pour organiser au mieux les soins face à l'afflux de patients Covid. Plans blancs dans les hôpitaux de 6 régions métropolitaines, PACA, Île-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté et Corse, plus les métropoles de Bordeaux, Rennes, Lyon et Strasbourg. Et ce n'est pas fini, dit le ministre de la Santé.
Le plan blanc sera d'ailleurs probablement national d'ici à quelques jours, puisque chaque région, l'une après l'autre, déclenche, ce qui permet à la fois de mobiliser plus de soignants, de mobiliser davantage le secteur privé, et de faire en sorte, comme nous l'avons fait lors des vagues précédentes, lorsque la pression sanitaire était élevée, de mobiliser toutes nos forces vers un objectif, soigner contre le Covid et sauver des vies. L'épidémie ne touche pas en particulier une région, elle est nationale. Tous les territoires sont absolument touchés. Et il y a désormais un malade qui rentre en réanimation toutes les 6 minutes dans notre pays. Si vous vous souvenez, jeudi dernier, j'avais parlé d'une admission en réanimation toutes les 10 minutes, ce qui veut dire que ça s'accélère en termes de pression sanitaire dans notre pays.
La pression sanitaire s'accélère. Le nombre de 120 000 morts depuis le début de la pandémie a été franchi hier. Plus de 13 000 personnes sont actuellement hospitalisées, près de 2 500 en soins critiques. Les hôpitaux en plan blanc, notamment parce qu'il manque de personnel pour ces hôpitaux et autres établissements de santé. Le recrutement de personnel de soins est de plus en plus difficile. Cécilia Arbonnat a recueilli un témoignage édifiant, celui du président de l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine à Avignon, sur les délais de recrutement et les pratiques de moins en moins taboues pour y remédier.
Recherche en urgence, 5 médecins, 10 infirmières et 5 manipulateurs de radiothérapie. Ces offres d'emploi sont diffusées à l'échelle de la France depuis des semaines. Roland Sicard, président de l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine.
Avant, il nous fallait 3 mois pour recruter un personnel médical quand on ouvrait le poste. Maintenant, il nous faut plutôt 2 ans.
Il brise un tabou en osant dire qu'il s'est transformé malgré lui en une sorte de chasseur de tête qui tente de débaucher les infirmières des alentours avec une augmentation à la clé.
On n'a pas une candidature tous les jours qui tombe sur la table. La tentation de tout chef d'établissement, c'est de surenchérir les salaires par rapport aux établissements voisins. Mais enfin, on sait qu'on se pille entre nous les uns les autres. Dans une ville comme Avignon ou un département comme le Vaucluse, forcément, les personnes qui sont en poste ailleurs, dans une clinique ou à l'hôpital voisin, ont tendance à aller à ceux qui les payent le mieux de suite. Bon, on sait que si aujourd'hui on donne nous 100 euros de plus, l'hôpital demain donnera lui aussi 100 euros de plus parce qu'il n'a pas le choix. Et notre cri d'alarme, c'est que il y ait des dispositions d'urgence politique pour amener à ce qu'il y ait plus d'écoles de soignants en France, pour qu'on amène plus de personnel soignant rapidement sur le marché du travail.
Son établissement privé à but non lucratif accueille 10 000 patients par an.
À propos du Covid, du côté de la vaccination, pour essayer d'accélérer les choses et libérer de nouveaux créneaux, les pharmacies vont être autorisées à ouvrir tous les dimanches de décembre et janvier. Est-ce pour des raisons de fond, d'ego ou d'opportunité politique? En tout cas, l'union de la gauche à la présidentielle n'est pas pour aujourd'hui. Hier, à la surprise générale, au journal de 20h de TF1, au vu de la très grande faiblesse des candidats de gauche dans les enquêtes d'opinion, Anne Hidalgo appelait à la tenue d'une primaire ouverte entre candidats de gauche. Les réponses depuis ont fusé claires et nettes. C'est non, par exemple, le candidat communiste Fabien Roussel.
Est-ce que l'espoir à gauche, on va le retrouver en réglant un problème de personne? De non, je ne pense pas. La primaire, c'est fait pour trancher sur tel ou tel. Nous pensons, nous, que le problème de la gauche, c'est d'être en capacité de se rassembler sur un programme ambitieux pour la France, en rupture avec ce modèle économique, sachant répondre autant aux urgences sociales qu'aux urgences climatiques. Et donc, si la gauche n'est pas en capacité d'apporter des réponses ambitieuses en rupture avec ce modèle économique, elle n'arrivera pas à convaincre. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est rassembler autour d'un tel programme. Et je réponds à Anne Hidalgo, comme à Arnaud Montebourg. Je leur dis, mais si vous ne savez pas quoi faire, si vous doutez de votre candidature, comme j'ai le sentiment, venez nous rejoindre.
Fabien Roussel sur France Info. Non donc à la primaire, même réponse dans le camp de Jean-Luc Mélenchon ou chez les écologistes derrière Yannick Jadot. Seul Arnaud Montebourg semble prêt à renoncer à sa candidature au nom de l'unité et peut-être aussi en raison de sondages calamiteux. Hier, il a publié une lettre via Twitter. Il est prêt à offrir sa candidature à un projet et un candidat commun si une discussion entre tous les candidats de gauche s'ouvre. Pour les autres, non donc. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Comment explique-t-on, Antoine, cette réponse aussi ferme que rapide?
Elle est un peu différente. L'explication suivant les candidats. Autour de Jean-Luc Mélenchon, ce sont les divergences qu'on met en avant, la singularité du projet de la France insoumise sur l'Europe, sur la mondialisation. Pas question d'être dissous dans la masse, donc pas question de primaire. Pour les écologistes, s'ajoute à cette inquiétude le fantôme de 2017. Qu'on ne m'accuse pas de ne pas prendre mes responsabilités, lance Yannick Jadot, qui rappelle son effacement au profit de la candidature de Benoît Hamon et prend le pari de faire mentir les sondages. L'élection, c'est dans 4 mois et demi, dit-il. Le rassemblement ne peut se faire qu'autour de l'écologie. La social-démocratie n'est plus le nouvel horizon historique, ajoute Delphine Bateau, qui coordonne les porte-paroles. Quant à Fabien Roussel, vous l'avez entendu, il ne dépasse pas 3% dans les sondages et se moque ouvertement des socialistes. Des refus irresponsables, commente Stéphane Troussel, porte-parole d'Anne Hidalgo, appuyé par Patrick Kanner, pour le patron des sénateurs socialistes. Quand on est au fond de la piscine, on passe dans le siphon où on met un coup de talon.
Du côté d'Anne Hidalgo, Antoine, comment expliquer cette initiative, proposer une primaire qu'elle écartait quelques heures plus tôt hier?
Oui, elle réfléchissait sérieusement à cette idée de primaire depuis plusieurs jours, explique son entourage. Mais tout s'est accéléré hier en fin de matinée avec l'invitation de TF1 sur le plateau du 20h. Anne Hidalgo, en route pour La Rochelle, est descendue du train à Poitiers pour faire demi-tour et rentrer à Paris. Un déclic nécessaire, commente un ténor du Parti Socialiste qui évoque aussi la tension autour des élections législatives. 5 à 6% d'intention de vote, dit-il, c'est une trentaine de sièges au Parlement. Et ça, c'est aussi un enjeu important.
Invité de France Inter ce matin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, ne renonçait pas à cette primaire. Malgré tous ses refus, il rencontrait en fin de matinée les organisateurs de la primaire populaire, processus en ligne qui suit son cours en marge des partis, plus ou moins 230 000 inscrits. Les participants ont d'abord dit quel candidat ils souhaitaient voir aligné. Ils ne sont pas forcément d'accord, les candidats en question. Puis il y aura un vote en janvier. Bonjour Mathilde Himmer.
Bonjour.
Porte-parole de cette primaire populaire, avant de vous entendre sur la rencontre avec Olivier Faure, vous avez entendu hein, les écologistes, les communistes, les insoumis, c'est non à une primaire ouverte, c'est mort.
Non, aujourd'hui on sent que ça bouge. Jusqu'ici, tout le monde se moquait de nous du côté des candidats. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui on a 2 candidats, Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo, qui sont prêts à mettre en jeu leur candidature pour le rassemblement.
Mais comment vous pouvez y croire encore alors que par exemple un Julien Bayou chez les écologistes dit allez-vous participer à une primaire? Il dit... Pour Yannick Jadot, il dit non, évidemment.
La réponse, elle est simple. Xavier Bertrand ne devait pas, ne souhaitait pas participer à la primaire des Républicains. Yannick Jadot ne souhaitait pas participer à la primaire des écologistes. Ils ont tous les deux participé à la primaire. Des Républicains pour Xavier Bertrand, des écologistes pour Yannick Jadot, qu'il a d'ailleurs...
Mais du coup, elle est faite, la primaire.
Non, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire, en politique, c'est toujours non, jusqu'à ce que le rapport de force permette de dire oui. Donc ceux qui veulent une primaire, ceux qui veulent que l'écologie et la justice sociale gagnent en 2022, je les invite maintenant, tout de suite, à prendre 3 minutes, à aller sur le site de laprimairepopulaire.fr, à s'inscrire. Plus on sera nombreux, plus il sera difficile pour Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon de continuer à dire non. Les pressions, elles augmentent. Cyril Dion, Marie-Monique Robin et tous les militants écologistes aujourd'hui poussent Yannick Jadot à participer à cette primaire populaire. Plein de gens côté LFI poussent Jean-Luc Mélenchon à participer.
Qu'est-ce que vous êtes dit ce matin avec Olivier Faure, Mathilde Himmer?
On s'est dit une chose simple, il a rappelé ce qu'a dit Anne Hidalgo hier, qu'il souhaitait maintenant que la candidate qui est portée par le Parti Socialiste participe à une primaire, qu'ils envisagent que ce soit véritablement la primaire populaire. Et nous, ce qu'on a répondu, c'est que c'est évidemment un grand oui, à condition que d'autres candidats s'embarquent dans l'affaire. On ne fera pas une primaire avec uniquement le PS, Anne Hidalgo ou même Arnaud Montebourg.
Qu'est-ce qui ferait, alors j'ai bien entendu le rapport de force, mais enfin la pression pour que la gauche s'unisse à la présidentielle, elle date pas d'aujourd'hui et c'est non, non et non. Qu'est-ce qui les ferait changer d'avis à part le rapport de force?
Mais il n'y a rien en politique qui les fait changer d'avis sauf le rapport de force. Et ça passe par plusieurs éléments. Les sondages. Ils parlent eux-mêmes de faux plats. Moi j'appelle ça un vrai plat. Ils sont tous à stagner.
On peut même dire vrai creux.
Vrai creux, voire même descente. Parce que globalement, on est passé de 31% à 24%. Pourquoi?
Comment vous l'expliquez?
C'est simple, les gens sont désespérés de voir les candidats qui sont censés être responsables et mettre l'écologie et la justice sociale au pouvoir sont en train de nous interdire cette victoire alors qu'elle existe. Nous, on a le goût de la victoire à la primaire populaire. On a le goût, on a le devoir. Parce que moi, j'ai 31 ans et on est nombreux jeunes à se dire le GIEC, Les scientifiques du monde entier disent 10 ans pour le climat. 10 ans. 5 ans, 2027, c'est trop tard. Sur les questions de justice sociale, on en a ras-le-bol de voir nos amis faire la queue. Un Français sur 10 aujourd'hui fait la queue pour manger à la fin du mois. On attend quoi? On attend législative et 2027? C'est irresponsable. On pense que Yannick Jadot, que Jean-Luc Mélenchon sont des gens responsables, qui vont voir les sondages, qui vont voir la pression populaire, et on appelle un grand nombre de gens à montrer leur détermination en venant sur le site de la primaire populaire et en venant avec nous le 11 décembre prochain, place de la République pour les Parisiens et devant leur hôtel de ville pour les autres.
Pardon, au-delà de ça, il y a des différences de fond quand même entre les candidats de gauche sur le nucléaire, sur le rapport à l'Europe, sur le rapport à la République. Le premier tour de la présidentielle s'est fait pour que chacun défende sa ligne, et puis il y a un second tour.
Sauf que ça vous a pas manqué que depuis quelques temps, il y a l'extrême droite qui est systématiquement au second tour. Ce raisonnement de dire on peut y aller à plusieurs au premier tour, il est très vrai quand une démocratie fonctionnait correctement. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus de notre système politique. Ils s'abstiennent, ils votent blanc ou ils votent extrême pour dire je ne suis pas content. Donc il y a un moment où cet état de fait, il est vrai depuis des dizaines d'années, c'est crucial que le premier tour se fasse dans le cadre d'une primaire. Les Républicains l'ont compris, plus 7% pour les sondages les plus pessimistes, pour Valérie Pécresse. Plus 7%. Vous imaginez ce que ça veut dire, une primaire où il y a plus d'inscrits, alors même qu'on n'a pas encore de candidat au-delà d'Anne Hidalgo?
Question d'Antoine Gignot.
Même si on a des refus aujourd'hui, est-ce que cette décision d'Anne Hidalgo n'est pas de nature à faire bouger les lignes, y compris à faire émerger éventuellement d'autres candidats? On parle beaucoup de Christiane Taubira ces derniers jours notamment, mais pas seulement. Est-ce que ça peut faire bouger les lignes globalement du paysage politique?
Moi, je le mettrais au présent, ça fait bouger les lignes, on sent bien.
Vous l'avez eu, Christiane Taubira, ces derniers jours?
Non, on l'a pas eu depuis le 29 novembre, où on a, comme avec tous les autres candidats, eu un échange permettant de savoir si, oui ou non, elle souhaitait participer à la primaire populaire. À ce moment-là, elle nous disait, c'est ni oui ni non. On n'a pas de retour à elle de répondre si oui ou non elle souhaitera participer à cette primaire. Aujourd'hui, moi, je peux pas vous donner l'information. En revanche, on sent que les lignes bougent, on sent que la discussion autour de la primaire populaire, chez les équipes de Jean-Luc Mélenchon, dans les équipes de Yannick Jadot, il y a de plus en plus de débats. Et donc, oui, aujourd'hui, ce que je dis à tous les électeurs qui se reconnaissent dans la gauche, les écologistes, Bloc des Justices, écolo, arc-écolo, humaniste, on l'appelle comme on veut, allez sur le site de la primaire populaire, montrez que c'est ça que vous voulez et que vous voulez que l'écologie et la justice sociale arrivent au
pouvoir. On a compris le message, Mathilde Himmer. Encore une question, extrême droite à plus de 30, Emmanuel Macron autour de 25, la droite forte aussi. Qu'est-ce que vous répondez à beaucoup d'analyses qui disent, bah, au fond, la France est à droite et n'a pas envie aujourd'hui des candidats de gauche?
Je réponds que ceci est faux. Regardez quelles sont aujourd'hui les préoccupations des Français. Pouvoir d'achat. Changement climatique. Mais
peut-être qu'ils préfèrent les réponses de droite que de gauche à ces problématiques-là.
Il n'y a pas de réponse. Éric Zemmour, vous l'avez entendu une heure et demie de discours. Vous l'avez entendu dire le mot écologie? Moi, non. Je les ai toutes écoutées. Hein. Donc il y a un moment où il faut être responsable. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une capacité des candidats de droite aujourd'hui à se démarquer. Chez nous, aujourd'hui, il y a une incapacité à aucun des candidats d'imprimer sur les propositions. Et donc nous, on invite aujourd'hui les candidats et les candidates et les chaînes de télévision et de radio qui seraient intéressées, dont France Inter, à organiser des débats sur le fond. Avec les candidats qui soient pro-primaire ou sans la primaire, mais au moins que le débat sur le fond, sur les propositions qui font que l'écologie et la justice sociale existeront dans cette présidentielle, ait lieu.
Bon, en tout cas, les sujets de fond, il me semble qu'on les aborde très régulièrement. Merci Mathilde Himmer d'être venue dans ces studios. La politique en bref, Emmanuel Macron, pas candidat à ce stade, multiplie les interventions. Après ces deux jours de déplacement dans le centre de la France, conférence de presse cet après-midi, notamment pour présenter la présidence française de l'Union européenne. C'est seulement la deuxième conférence de presse de son mandat. L'Europe au programme, mais sans doute d'autres sujets abordés. La campagne à la télévision ce soir. Éric Zemmour, invité de l'émission politique de France 2 en première partie de soirée. Il débattra notamment avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Ils sont chauffeurs de VTC type Uber, livreurs pour des plateformes numériques comme Deliveroo. C'est une source d'emploi qui s'est développée ces dernières années à mesure que ces activités prenaient de l'importance dans nos vies quotidiennes. La très grande majorité de ces travailleurs a le statut d'indépendant, ce qui complique l'accès à une couverture sociale. Sont-ils vraiment indépendants ou, de fait, leur activité s'apparente-t-elle à celle de salariés de ces plateformes? Auquel cas, ils auraient droit à un salaire minimum, des normes plus claires et strictes de temps de travail ou de sécurité? Cette question occupe pas mal les tribunaux européens, mais les réponses apportées sont très variables. Alors la Commission de Bruxelles veut clarifier les choses. Angélique Boin, elle présente de nouvelles règles pour renforcer les droits de ces travailleurs.
La commission a identifié 5 critères qui fixent en quelque sorte un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur. Le fait de lui fixer un niveau de rémunération, de lui imposer des horaires ou un uniforme par exemple, d'exercer un contrôle qualité ou de lui interdire de travailler pour une autre entreprise. Si au moins 2 critères sont remplis, la plateforme serait, selon ce projet, présumée employeur. Sur les 28 millions de travailleurs concernés en Europe, 1/5 pourrait être requalifié en salarié selon la commission et bénéficier des droits sociaux de leur pays comme un salaire minimum ou une assurance chômage. Nicolas Schmitt, le commissaire européen à l'emploi.
On ne peut pas développer l'économie du 21e siècle avec finalement des règles ou des situations qui nous rappellent le 19e siècle. Et donc, ce n'est pas possible d'exclure les plateformes de ces obligations sociales que toutes les autres entreprises ont.
Un projet qui inquiète fortement le secteur. Aurélien Pozzana de l'entreprise Bolt est le président de l'Association des plateformes européennes. Il estime qu'il y a une autre voie.
Il y a d'autres manières de le faire sans remettre en cause leur statut d'indépendant. Par exemple, on peut regarder ce que fait la France, qui aujourd'hui est en train de mettre en place un dialogue social structuré sous l'égide d'une autorité publique indépendante et qui permettra véritablement aux chauffeurs VTC, par exemple, d'exprimer ce qu'ils souhaitent.
L'association, qui s'appuie sur une étude du cabinet Copenhagen Economics, dit redouter la destruction de 250 000 emplois. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Les attentes à la laïcité sont encore régulières dans les écoles, collèges et lycées de France. Collège, dans un peu plus de la moitié des cas. 614 signalements entre les mois de septembre et novembre, c'était 547 lors de la dernière enquête du ministère de l'Éducation. Un tiers des faits, ce sont des incidents lors des hommages à Samuel Paty en octobre, un an après son assassinat. Le non-respect de l'interdiction de signes ou vêtements religieux ostensibles intervient également. Parallèlement, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme en cette journée de la laïcité a commandé un sondage sur le même thème à l'Institut IFOP. Quels en sont les enseignements ? Écoutez les réponses de François Cros, responsable du service politique et éducation à l'IFOP, qui a mené l'enquête donc.
Ce qui en ressort, c'est que voilà, l'école n'est pas à l'abri de l'expression de différentes affirmations d'identité religieuse, qui se traduisent parfois par une remise en cause du contenu même des enseignements, notamment sur l'égalité homme-femme ou l'histoire ou l'instruction civique, mais aussi l'expression d'une volonté d'entre-soi durant certains moments de la vie scolaire, comme par exemple à la cantine où on a l'observation de l'organisation des tables en fonction de la religion des élèves. Donc on a quand même le sentiment qu'il y a une poussée du religieux à l'école. Globalement, on voit bien, c'est ça qu'on retient, qu'il y a des contestations du principe de laïcité, des formes d'affirmation de religiosité qui se retrouvent de manière non négligeable et notamment dans certains quartiers, dans certains lycées marqués par le sceau de la relégation sociale ou scolaire comme les lycées qui sont en banlieue populaire ou qui sont classés prioritaires.
En propos recueillis par Lou Bourdi ce jeudi, la journée de la laïcité, donc comité interministériel à Matignon, une nouvelle version de la charte de la laïcité dans les services publics doit être présentée, précisant notamment que le devoir de stricte neutralité s'applique aussi aux entreprises délégataires de services publics, dans le domaine du transport notamment. Dans la série Laïcité et liberté malmenée, la tournée de la chanteuse suédoise Anne von Auswolf, victime de censure à la manœuvre des catholiques intégristes qui jugent cet artiste sataniste parce que dans une chanson sur l'addiction à la drogue, il était question de faire l'amour avec le diable. Elle joue de l'orgue, les concerts se tiennent dans des églises, annulée à cause de l'action de manifestants lundi soir à Nantes, annulée aussi ce soir à Saint-Eustache à Paris. Le concert aura lieu, mais ailleurs, les organisateurs ne disent pas où. Pour raison de sécurité. Drôle d'ambiance, Mathieu Culon.
C'est la première fois de sa carrière d'artiste qu'Anna von Auswolf se voit dans l'obligation d'annuler un concert. La chanteuse suédoise qui s'est fait une spécialité de jouer sur des grands orgues dans le monde entier. Elle a déclaré à Libération ne pas comprendre ces manifestations, la qualifiant de sataniste, et déclare que dire que sa musique est blasphématoire est non seulement faux, mais également blessant. Élie Comins est le directeur du lieu unique, l'organisateur de ce concert à Nantes.
Je trouve que ce qui s'est passé hier, c'est inacceptable, donc je ne l'accepte pas. C'est une entrave manifeste à la liberté de création et à la liberté de programmation également. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va continuer de manière très déterminée, énergique à programmer en toute liberté. Et évidemment, il ne nous était pas du tout venu à l'esprit qu'un concert instrumental d'orgue sans parole pourrait poser le moindre souci. Moi, je suis très confiant, mais je vois des signes qui doivent nous réunir et nous rassembler autour de valeurs communes et importantes.
À la suite de ces annulations, l'église Saint-Eustache a annulé également le concert de la musicienne suédoise ce soir. L'église des Halles, qui a pourtant une longue tradition d'accueil de musique actuelle dans son lieu de culte, une église qui accueille même des festivals, c'était le cas en juin dernier et déjà première alerte. Le concert d'Eddie Depreto avait provoqué une série d'indignations et de propos homophobes sur les réseaux sociaux de la part de groupuscules catholiques. Cette fois-là, le concert avait eu lieu.
Et donc à Paris ce soir, il aura bien lieu, pas à Saint-Eustache, mais dans un autre endroit qui est pour l'instant tenu secret. La menace terroriste est bien présente à l'approche de Noël. Un projet d'attentat vient d'être déjoué par les services antiterroristes. Deux hommes arrêtés fin novembre en banlieue parisienne, à Meaux et au Pec dans les Yvelines. Ils projetaient de tuer des passants au couteau dans un lieu fréquenté. Particularité d'un des deux hommes, Emmanuel Leclerc, il avait déjà été condamné et incarcéré pour des faits de terrorisme. Sorti de prison, il est donc accusé d'avoir à nouveau préparé un attentat.
Oui, c'est la première fois depuis la vague d'attentats de 2015 qu'un homme condamné pour association de malfaiteurs terroristes, un jeune homme puisqu'il était mineur à l'époque des faits, ressorte de prison, soit arrêté et mis en examen de nouveau pour les mêmes faits. En l'occurrence, effectivement, un projet d'attaque au couteau et cette fois à l'occasion des fêtes de Noël. Après 18 mois passés en prison, ça n'a visiblement rien changé de ses velléités djihadistes. En 2015 et 2016, il avait été repéré pour fréquenter assidûment les forums sur Internet animés par Inès Madani, condamnée en juin dernier à 30 ans de prison pour l'attentat manqué aux bonbonnes de gaz près de Notre-Dame à Paris. Il faut savoir, Bruno, que les alertes sur cet adolescent totalement embrigadé avaient été lancées par des élèves de sa classe au lycée dans le département de la Somme, immédiatement relayées par les responsables de l'établissement. Dans son dossier judiciaire, on décrit bien le parcours de cet adolescent né à Casablanca sans problème, jusqu'à ses 12 ans où il contracte une méningite qui provoque des séquelles neurologiques, instable, impulsif. Il bascule donc après avoir consulté des sites djihadistes, mais il ne part pas en Syrie. Il est stoppé une première fois après avoir confié à son entourage sa volonté de frapper au couteau des couffards des mécréants. L'alerte a de nouveau été donnée ces dernières semaines.
Le journaliste Pierre Ménès, sous le coup d'une enquête pour agression sexuelle, en garde à vue ce matin. L'ancien journaliste foot de Canal+ est accusé d'avoir touché la poitrine d'une hôtesse au Parc des Princes le 20 novembre. L'opération prise de contrôle de Lagardère s'accélère au sein du groupe Bolloré. Bolloré, déjà premier actionnaire, 27% du capital. Objectif 45%, ça devait être à la fin de l'année prochaine. C'est finalement programmé dans les tout prochains jours, Alexandra Akoun.
Ce coup d'accélérateur, d'après le communiqué envoyé ce matin et qui a surpris tout le monde, officiellement, on le doit à des analyses récemment menées par Vivendi, analyses qui ont conduit le groupe, peut-on y lire, à considérer que cette acquisition pouvait intervenir dès à présent, sans attendre le feu vert de l'autorité de la concurrence européenne, ni celui du CSA. On peut aussi y voir la volonté de Vincent Bolloré de mettre ses affaires en ordre avant de passer la main à ses enfants. Lui qui a toujours dit qu'il prendrait sa retraite le jour de ses 70 ans, autrement dit le 1er avril prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'il leur laissera un empire médiatique phénoménal. Toutes les chaînes du groupe Canal+, dont la très droitière CNews, toutes les publications du groupe Prisma, plus d'une vingtaine de titres. Et grâce à l'acquisition de Lagardère, désormais, les influents Paris Match et Journal du Dimanche, sans oublier côté radio Europe 1, avec la volonté clairement affichée d'en faire un groupe d'opinion à même de peser sur les prochaines élections présidentielles.
Alexandra Akoun, dans un instant, la météo avec Elodie Calac, alerte orange dans les départements pyrénéens et bord pyrénéens.
Nona et ses filles, la nouvelle série Arte de Valérie Danzelli. Déjà grand-mère, libre et amoureuse, Nona mène une vie épanouie. Jusqu'au jour où on lui annonce qu'elle est enceinte.
Je m'appelle Elisabeth Perrier, mais tout le monde dit Nona. Je suis féministe. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Et c'est vraiment une catastrophe.
Une série avec Miu Miu, Virginie Ledoyen, Clotilde M et Valérie Donzelli. À retrouver ce soir à 20h55 sur Arte et en intégralité sur arte.tv. Arte, vous aimez déjà.
France Inter aime
les spectacles de Nemo, Biennale internationale des arts numériques de la région Île-de-France. Du 14 au 22 décembre, le 104 Paris accueille 6 spectacles d'art vivant en prise avec les nouvelles technologies à l'ère du numérique. Un programme haut en couleur où transhumanisme, réalité virtuelle, étirement du temps, magie nouvelle et humour sont de mise. Nemo, la Biennale internationale des arts numériques de la région Île-de-France au 104 Paris, un partenariat France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
7 départements en vigilance orange dans le sud-ouest, encore une nouvelle perturbation.
Oui, avec de nouvelles pluies en effet qui gagnent l'ouest jusqu'à la Normandie et au sud-ouest. Alors ces pluies, elles deviennent soutenues près des Pyrénées, elles se maintiendront demain. Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange pour ces pluies. Attention, vigilance orange crue du Pays Basque et des Landes vers le Gers. Et puis vigilance orange pour les avalanches sur toute la chaîne des Pyrénées. Le risque va devenir très fort, niveau 5 sur 5. Il neige vers 1400 mètres cet après-midi, ce sera plus haut ce soir vers 2000 mètres. Et puis ailleurs, on a un temps quand même plus calme avec des nuages, quelques éclaircies, encore quelques averses sur le nord-est, parfois sous forme de neige vers 400 mètres. Et en Méditerranée, du soleil et du vent. Mais ça va se gâter pour ce soir et cette nuit puisque la perturbation bien pluvieuse va traverser le pays. Et on la retrouvera dans l'est demain. Elle déposera d'ailleurs de la neige jusqu'en plaine sur le nord-est et sur Rhône-Alpes. Et il neigera beaucoup sur les Alpes demain, prudence.
Elodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duby.
Le plan blanc dans les hôpitaux sera probablement national d'ici à quelques jours. Propos d'Olivier Véran, ce matin le ministre de la Santé qui ajoute « ça s'accélère en termes de pression sanitaire ». Ce plan blanc concerne déjà les hôpitaux de 6 régions en France, plus une série de métropoles parmi les régions PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Notre invité jusqu'à 13h45 est le directeur de l'APHM, les hôpitaux de Marseille. Bonjour François Crémieux.
Bonjour.
Merci d'être sur France Inter. Ça s'accélère en termes de pression sanitaire, dit le ministre de la Santé. Est-ce que c'est ce que vous constatez à Marseille également ?
Absolument, ça s'accélère en termes de pression sanitaire dans la France, en France entière et dans l'ensemble des régions, avec un taux d'incidence, un nombre de cas pour 100 000 habitants qui est élevé et qui effectivement est encore plus élevé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et au sein de la région, plus élevé encore dans les Bouches-du-Rhône. Et donc dans les Bouches-du-Rhône, c'est presque 650 cas pour 100 000 habitants et donc la pression commence à monter très fort et très vite, notamment à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.
650 cas, on rappelle que le seuil d'alerte élevé déjà est de 250. Combien de patients Covid dans les hôpitaux de la région marseillaise, monsieur Crémieux?
Aujourd'hui, à peu près 180 patients sont hospitalisés pour un Covid, dont une petite cinquantaine, 43 exactement ce matin, en réanimation. Et c'est un nombre de patients qui n'a cessé d'augmenter depuis une quinzaine de jours, et plutôt plus rapidement que ce que l'on avait pu anticiper avec les prévisionnistes il y a quelques semaines. Et donc, voilà, la situation est à la fois inquiétante et va continuer à se dégrader dans les jours qui viennent.
Et quel est le profil de ces patients ?
C'est d'une part un profil qui est similaire à celui des vagues précédentes avec deux caractéristiques. La première, c'est qu'on continue à observer une moyenne d'âge, notamment des patients qui sont hospitalisés en réanimation, qui a tendance à être relativement basse. Elle est aujourd'hui autour de 56 ans. Donc le Covid, et y compris les formes graves du Covid, ne touche pas que les personnes les plus âgées. Mmh. Et puis deuxième caractéristique, ce sont principalement des personnes qui ne sont pas vaccinées, qui font ces formes graves et qui sont hospitalisées en réanimation, ce qui crée une frustration absolument terrible auprès des équipes que d'avoir l'impression que cette vague aurait pu être évitée, en tout cas elle aurait pu être atténuée plus qu'elle ne l'est.
Et du coup, de votre poste, ce débat qui monte petit 1 sur une obligation vaccinale, alors allons-y d'abord sur l'obligation vaccinale, est-ce que vous dites il faudrait y passer pour éviter les situations que vous décrivez à l'instant ?
Alors d'une part, ce sera évidemment à nos élus, et c'est pas pour esquiver la question, mais c'est à nos élus de prendre une décision aussi importante que celle-là. Ce qu'il y a de certain, c'est que au sein des hôpitaux, les équipes ont fait aujourd'hui tout ce que l'on peut en termes de pédagogie, d'incitation, de conviction, pour essayer d'amener un maximum de gens, non seulement à se vacciner pour ceux qui ne l'ont jamais été, mais d'autre part à venir prendre leur rappel pour ceux qui ont été vaccinés il y a plus de 5 ou 6 mois. Oui. C'est un enjeu majeur, sinon les vagues vont continuer à succéder, le virus va continuer à circuler, nos hôpitaux vont continuer à se saturer de manière régulière et on va continuer à devoir reprogrammer, reporter des interventions ou des prises en charge pour les patients qu'on ne peut pas accueillir.
Le plan blanc chez vous, ça signifie quoi là en ce début de mois de décembre ? Ça signifie des annulations d'opérations ? Ça signifie quoi ?
Alors ça signifie d'une part le renforcement de toutes les mesures de type gestes barrières qui sont encore renforcées dans les hôpitaux, à la fois parmi les professionnels mais également avec l'ensemble des patients, de leurs proches et de ceux qui viennent les visiter. Ça signifie d'autre part effectivement qu'on se prépare à augmenter le nombre de lits dédiés au Covid dans les prochains jours. On l'a déjà fait ces 15 derniers jours, on va continuer à le faire et donc c'est toute une organisation interne pour faire en sorte qu'on se réorganise par rapport à cette vague qui monte. C'est troisièmement effectivement on commence commence à reprogrammer des interventions moins urgentes pour probablement après les fêtes, pour toutes les interventions qui peuvent être reportées. C'est pas le cas de toutes. Tous les patients qui ont besoin d'une intervention urgente et nécessaire dans les prochains jours seront évidemment accueillis, mais tous ceux pour lesquels l'intervention peut être reportée, elle le sera. C'est par nécessité pour pouvoir accueillir ceux qui vont se présenter aux urgences dans les prochaines heures et dans les prochains jours.
Est-ce que vous avez des patients Omicron parmi vos malades du Covid ?
À la date d'aujourd'hui, à Marseille, pardon, je ne peux pas vous répondre sur y en a-t-il ou pas dans les lits hospitalisés à Marseille, mais clairement, le variant Omicron est en train de circuler, il va continuer à circuler. Pour l'instant, nous n'avons pas d'indicateur qui montrerait que ce soit la cause principale de cette vague actuelle. À Marseille, en tout cas, la cause principale, c'est manifestement le trop faible taux de vaccination. Il est de moins de 70% en région PACA, dans les Bouches-du-Rhône, alors qu'il est plutôt au-dessus de 85% en France. Et donc l'enjeu majeur, c'est vraiment le taux de vaccination et parmi les vaccinés, la proportion de ceux qui ont bénéficié d'un rappel.
Alors je voudrais vous faire dialoguer avec Bernard qui est au standard avec nous. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de l'autre côté de la France, Lille.
Exactement, oui.
Nous vous écoutons.
Sur un site, c'est France Info pour ne pas le nommer, et dans le cadre de Désintox, on nous indique qu'il n'y a pas d'épidémie de non-vaccinés. Et je voulais savoir si, au travers de l'expérience de votre invité, il pouvait effectivement nous confirmer que le nombre de non-vaccinés qui étaient appelés à être hospitalisés n'était pas le signe d'une épidémie plus marquée que chez les vaccinés.
Ce que vous nous dites, François Crémieux, c'est que voilà, je ne sais pas si on peut parler d'épidémie de non-vaccinés, mais en tout cas, vos patients sont des gens qui ne sont pas vaccinés très majoritairement.
Effectivement, il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise. Il n'y a pas d'épidémie au sens où il n'y a pas d'épidémiologie particulière parmi les non-vaccinés. En revanche, le virus circule. Ceux d'entre nous qui sommes vaccinés avons une probabilité d'être malade qui est plus faible, et parmi ceux qui sont malades, une probabilité de faire une forme grave qui est également beaucoup plus faible, voire extrêmement faible. Et donc, lorsque l'on parle d'épidémie de non-vaccinés, c'est une formule pour indiquer que ceux qui aujourd'hui sont hospitalisés, et plus encore ceux qui sont en réanimation, sont presque exclusivement, très majoritairement, des patients non vaccinés.
Avez-vous des patients vaccinés en réa, cela dit, ultra minoritaires, mais en avez-vous ?
Il y a pu y en avoir. De nouveau, je ne peux pas vous dire s'il y en a à la date d'aujourd'hui à Marseille. C'est possible avec des patients qui soit ont été vaccinés et n'ont pas eu le rappel récemment, soit pour des patients qui, bien qu'ayant été vaccinés, ont des comorbidités ou des facteurs de fragilité particuliers qui peuvent les amener à être hospitalisés pour des formes graves. Ce sont des cas extrêmement minoritaires et donc l'enjeu majeur, notamment du côté des hôpitaux, si on veut faire baisser cette pression, c'est évidemment la pression de ceux qui ne sont pas vaccinés et qui pourraient l'être.
Quelle est la part du Covid et des autres maladies hivernales dans le déclenchement du plan blanc et dans la charge que connaissent les hôpitaux aujourd'hui ? Je pense à la bronchiolite, je pense à la grippe ou à d'autres maladies hivernales.
Alors vous avez raison, la période de cette cinquième vague est particulière. On est dans une période où nous avons des épidémies hivernales, contrairement pour partie d'ailleurs à l'hiver dernier où les gestes barrières, les périodes d'isolement avaient conduit à des épidémies hivernales dites traditionnelles beaucoup moins importantes, notamment la bronchiolite chez les enfants. Ça n'a pas été le cas cette année et nous sommes également aujourd'hui à la PHM dans les Bouches-du-Rhône à Marseille avec une épidémie de bronchiolite assez élevé et assez comparable à celle des années antérieures. Pas de l'année dernière, mais des années antérieures. Et d'autre part, nous sommes dans une période début décembre dans laquelle l'activité des hôpitaux était intense, contrairement là aussi à ce qu'elle pouvait être en plein mois d'août au moment de la vague précédente à Marseille. Et donc vous avez raison de dire que nos difficultés, c'est aussi un élément cumulatif entre d'une part une cinquième vague qui est intense qui monte vite, et puis d'autre part l'activité habituelle d'un grand CHU comme Marseille en plein mois de décembre.
Ça veut dire qu'il y a aussi, François Crémieux, un message qu'on peut entendre de la part d'autres directeurs d'hôpitaux sur le thème « aller aux urgences si c'est strictement nécessaire, sinon il y a la médecine de ville ».
Oui, c'est le même message que d'habitude. D'abord, premier message, allez aux urgences si c'est nécessaire, que nul ne renonce aux soins si vous avez besoin d'être pris en charge par des médecins ou d'être pris en charge à l'hôpital. Malgré la situation, évidemment, n'hésitez pas, ne renoncez pas aux soins. Et d'autre part, effectivement, lorsque des alternatives au fait de venir à l'hôpital vous sont possibles, il vaut mieux aller voir son médecin traitant que de venir à l'hôpital et aux urgences.
Alors, plan blanc également, parce que il y a des tensions sur les recrutements et le personnel. Qu'en est-il à la PHM ? Est-ce que vous manquez d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecins ? Quel est le tableau de ce point de vue ?
Alors, pour répondre à vos trois questions, d'aide-soignants, non. D'infirmiers, oui. Il y a environ 150 postes vacants aujourd'hui qu'on espère recruter prochainement. Alors, l'assistance publique aux hôpitaux de Marseille est une grande institution. On est plus de 15 000. Néanmoins, les 150 postes vacants sont importants et donc on fait notre maximum pour attirer et pour recruter. Pour ce qui est des médecins, on a moins de difficultés probablement à Marseille qu'ailleurs, mais par exemple, les urgentistes aujourd'hui sont en grande tension parce que soit à Marseille, soit sur le territoire des Bouches-du-Rhône, certains services d'urgence sont en difficulté de recrutement. Donc il y a effectivement, qui se surajoute aux difficultés liées au nombre de patients, des difficultés liées aux enjeux de recrutement de professionnels.
On a diffusé dans le journal de 13h le témoignage du président de l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine à Avignon, qui disait qu'avant, recruter un infirmier, une infirmière, c'était l'affaire de 3 mois, que là, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. C'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, des délais aussi longs pour recruter des personnels soignants?
Alors non, moi je constate pas des délais aussi longs. En revanche, je constate effectivement et c'est peut-être dire un peu la même chose, mais des postes qui restent vacants longtemps. On a effectivement en permanence des difficultés à recruter, ce qui renvoie à la fois à la question du nombre de jeunes que nous formons dans nos instituts de formation en soins infirmiers, et ce nombre de jeunes est en train d'augmenter. Le quota pour les études d'infirmières est en train d'augmenter, mais on sait tous que c'est à effet à moyen terme, 3 ans entre le moment où on rentre en première année et le moment où on ressort. Et puis on a d'autre part un enjeu, effectivement, si ce n'est de lassitude et de fatigue, d'exaspération par rapport à cette situation de crise qui ne cesse de se répéter avec cette 5e vague. Et donc on a 2 enjeux, effectivement, recruter des soignants pour avoir un maximum de lits ouverts, mais il faut aussi et surtout qu'on fasse en sorte que le moins de personnes possibles soient contaminées par le Covid et parmi elles, que le moins possible ait de formes graves.
Est-ce que vous redoutez de devoir réquisitionner du personnel au moment des fêtes de fin d'année ?
On se prépare à tout. Notre objectif, et vous le comprendrez évidemment, c'est de faire en sorte que la période des vacances soit respectée pour tous et qu'elle soit le mieux respectée possible. Maintenant, les professionnels de santé sont tous de grands professionnels, très engagés, très impliqués auprès de leurs patients. Quoi vous dire sur ce qui va se passer dans 3 semaines, je ne sais pas très bien. Je sais que sur les 15 prochains jours, la vague dont on parlait va continuer à s'aggraver dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille. Peut-être qu'on verra une atténuation grâce au renforcement des gestes barrières, à la prolongation de la vaccination. Maintenant, on fera cet hiver ce qu'il faudra faire à Marseille comme ailleurs pour que les patients soient le mieux accueillis possible.
Ça veut dire que vous espérez un pic dans une quinzaine de jours à peu près et qu'ensuite la vague reflue un peu?
Cette épidémie est ainsi faite que, à l'instant T, on sait de manière assez précise ce qui va se passer 15 jours plus tard. Donc on sait que dans les 10 à 12 prochains jours, l'épidémie va continuer à très probablement augmenter dans les Bouches-du-Rhône. On a toujours l'espoir que les mesures qui sont déclenchées et puis la période de vacances qui va arriver nous permettent de l'atténuer. Et donc il faut effectivement qu'on atteigne le pic le plus vite possible, puis qu'on retrouve une décroissance et qu'on puisse reprogrammer ceux des patients dont les prises en charge auront été reportées.
On parlait, François Crémieux, des difficultés de recrutement. Vous qui dirigez la PHM, vous nous parliez des infirmiers, moins de tension pour les aides-soignants et les médecins. Qu'en est-il? J'imagine que vous avez un regard évidemment sur vos collègues des autres départements. On sait que l'ARS, Provence-Alpes-Côte d'Azur, a lancé un appel pour que des étudiants, des retraités puissent prêter main forte. Qu'en est-il dans les hôpitaux ailleurs qu'à Marseille dans la région?
Il y a effectivement des difficultés dans les hôpitaux d'Aix, de Salon, d'Arles, Aubagne, Martigues, etc. Je ne vais pas vous les citer tous, mais nous faisons effectivement tous face à des difficultés qui sont encore liées à ces deux phénomènes, l'augmentation du nombre de malades et des difficultés de recrutement. Donc l'Agence régionale de santé a évidemment raison d'en appeler à toutes les bonnes volontés et à tous ceux qui aujourd'hui seraient disponibles pour venir renforcer les équipes. Encore une fois, la difficulté, c'est le nombre exceptionnel de patients.
Oui.
Et a fortiori pendant une période de vacances, pendant lesquelles, en général, on essaye plutôt d'organiser le fait que l'activité baisse un peu, parce que les gens sont en congé et que lorsque l'on peut reporter leurs interventions après, on le fait. Là, on est contraint par une vague épidémique qui nous impose un nombre de patients important, un moment où chacun d'entre nous aspirera à prendre des vacances méritées.
Encore 2 questions, celle de Patrick dans le Lot. Vous dites qu'il y a 40 personnes en PACA. Est-ce que le plan blanc aurait été déclenché s'il n'y avait pas eu une mise à pied du personnel non vacciné dans les hôpitaux?
Assurément oui, le nombre de personnels non vaccinés a été relativement faible. Nous étions à Marseille autour d'une cinquantaine de pourcents seulement de professionnels vaccinés début août, et à force de conviction et de pédagogie, on était à plus de 98% de professionnels vaccinés vers le 15 septembre, au moment où l'obligation vaccinale est arrivée. Et donc aujourd'hui, le nombre de professionnels non vaccinés est donc évincé de nos structures est extrêmement faible. Il s'agit de quelques professionnels, moins de quelques dizaines à l'échelle de toute l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Et donc la situation serait au contraire bien pire si, en plus des difficultés dont nous venons de parler, nous avions en plus des professionnels non vaccinés dans les services, à risque à la fois d'être malades et de faire de formes graves, et puis d'autre part de mettre en difficulté les équipes.
Et deux auditeurs nous demandent combien coûte la prise en charge hospitalière d'un patient Covid, combien coûte une journée en réanimation ?
Alors, la prise en charge d'un patient pour Covid est très variable. Certains d'entre eux viennent aux urgences, sont pris en charge et peuvent le plus souvent rentrer chez eux. Ceux qui sont pris en charge en hospitalisation, en médecine, coûtent évidemment plus cher. En réanimation, ça coûte cher, c'est plusieurs milliers d'euros par jour, pour des prises en charge qui sont parfois très longues, qui peuvent durer parfois plusieurs semaines. Et donc, c'est évidemment pas l'enjeu principal par rapport au drame que vivent à la fois les familles, les personnes malades et les équipes. Mais il y a effectivement un enjeu qui est que, par rapport à la vaccination, un séjour à l'hôpital, c'est non seulement une immense fatigue, parfois des séquelles, et puis c'est par ailleurs évidemment un coût.
Merci François Crémieux, directeur de l'APHM à Marseille, l'assistante publique des hôpitaux de Marseille, d'avoir répondu aux questions de France Inter. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans ce 13-14, le vif de l'histoire dans 10 minutes. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Fredel Nobel, que d'actes manqués.
Oui, une candidature répétée et toujours des échecs.
Vous nous raconterez cela. Avant cela, notre feuilleton 5 Français dans la campagne. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
À deux semaines de Noël, en cette année de célébration Brassens, les 100 ans de sa naissance et les 40 ans de sa mort, voilà une belle idée de cadeau. Un coffret anniversaire de 4 CD rassemblés sous ce titre. Elle est à toi, cette chanson.
Et c'est à la productrice Françoise Canetti qu'on doit ce coffret collector. Pas moins de 70 titres chantés par Brassens ou par d'autres, des versions introuvables, des entretiens inédits. Françoise Canetti, la fille du producteur Jacques Canetti, par ailleurs fondateur du théâtre des Trois Baudets, enfant aux côtés de son père, elle a assisté au début de Brassens sur scène. Début pas simple, en l'occurrence, il avait un trac incroyable.
Brassens ne voulait pas chanter au départ. Il n'avait surtout pas envie de se mettre en danger devant le public. Et donc c'était quelqu'un qui était très très mal à l'aise sur scène. Il attendait finalement que d'autres chantent ses chansons. Et mon père l'a littéralement installé sur la scène du théâtre des Trois Baudets, où il a beaucoup transpiré, hein. Transpiré à grosses gouttes. Il avait vraiment très peur, très 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 peur. Et puis le fait de chanter tous les soirs, 3-4 chansons, pas plus, vous voyez, d'apprivoiser les gens, de voir que ce ne sont pas des monstres finalement, qu'ils vous écoutent, ça lui a permis de se détendre et de devenir petit à petit l'interprète de ses chansons.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Et c'est donc Frédéric, la chanson « Les amoureux des bancs publics » qu'a choisi de nous faire écouter Françoise Canetti.
Une chanson initialement titrée « Bancs publics » tout simplement, et c'est l'une des premières que Brassens a eu le courage de chanter en public.
C'est une chanson, je crois qu'il a chantée en 1953 sur la scène du théâtre des Trois Baudets, et c'est une chanson que je comprenais. Ça a l'air idiot, mais je la comprenais.
Quand vous étiez toute petite.
Ben oui, et pour moi, c'est la jeunesse. Parce qu'en fait, Brassens parle des amours débutantes. Et il s'adresse à des gens jeunes qui ne sont pas des ventripotents et qui font des rêves pour leur avenir. Et donc, c'est aussi une vision de l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, je trouve qu'on se projette beaucoup d'une façon assez négative. On a peur du Covid, on a peur de beaucoup de choses. Et là, j'adore cette chanson parce que je trouve qu'elle est pleine de bonheur simple. On aime quelqu'un, on le regarde dans les yeux, et l'avenir vous semble possible.
Quand la sainte famille machin croise sur son chemin deux de ses mal appris, elle leur décoche hardiment des propos venimeux. N'empêche que toute la famille, le père, la mère, la fille, le fils, le Saint-Esprit, voudrait bien de temps en temps pouvoir se conduire comme eux.
On n'en voit plus beaucoup des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics.
Moi j'ai l'impression qu'on ne voit plus tellement d'amoureux se bécoter, ni même se prendre par la main. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est une société très pudique sur le plan des sentiments. Et puis si vous voulez, les bancs ne sont pas faits aussi de la même façon. Regardez dans les gares, vous pouvez vous asseoir vraiment sur une fesse. Et c'est assez inconfortable. C'est pas avec ça que vous avez envie de bécoter votre amoureux.
Cette chanson-là de Brassens, c'est une chanson qui vous arrive encore d'écouter ?
C'est une chanson que j'adore écouter, bien sûr par Brassens, le maître. Mais alors je trouve que Michel Jonas a fait de cette chanson un petit chef-d'œuvre. Vous écoutez ça, vous êtes heureux.
Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant comme un gigard oblique, tout passe sans un air. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en disant déjà des bagues, au fait du gars bien sympathique.
Les amoureux des bancs publics de Brassens, ici dans la version Jonas, c'était donc Frédéric, le choix de la productrice Françoise Canetti.
Qui vient de publier un coffret formidable de 4 CD, Elle est à toi, cette chanson, dans lequel on retrouve notamment cette version de Michel Jonas.
Merci Frédéric, à demain.
À demain.
Notre feuilleton 5 français dans la campagne après David, l'agriculteur hier, qui penche pour Valérie Pécresse, aujourd'hui Camille, qui a un peu moins de 50 ans, travaille à Lyon dans le domaine de l'urbanisme, électeur de gauche depuis qu'il vote. Mélenchon 2017, thème de prédilection l'écologie. Et ce qu'il pointe au micro de Laurence Perron, c'est la difficulté à débattre de ce sujet.
Donc on est sur les quais de Saône.
Il y a un fleuve et une rivière à Lyon. Donc là on est au bord de la rivière, la Saône. Et là, effectivement, on a 10 cm d'eau partout, donc on peut pas. On va pas pouvoir marcher là.
Alors là, justement, on est en bas des pentes de Lyon. Et le maire, qui est un maire écologiste, qui est là depuis pas très très longtemps, a un grand projet qu'il soumet à ses habitants, qui est celui de faire un téléphérique qui permettrait de désengorger un peu Lyon, qui est quand même très 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 embouteillé.
C'est au niveau des communes de la Mulatière, Sainte-Foy-les-Lyon.
Les communes un petit peu bourgeoises de Lyon.
C'est l'ouest lyonnais, effectivement. C'est un téléphérique qui a pour but de désengorger l'ouest lyonnais. C'est effectivement l'ouest qui est le plus favorisé en termes de population et de revenus. Donc je ne sais pas trop comment me prononcer, mais j'ai l'impression que ça a manqué un peu de vraie concertation. Pour me balader un peu de temps en temps dans ces coins-là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de banderoles, de gens qui manifestent leur mécontentement et leur désapprobation par rapport à ce projet. Bon, bien sûr, on dit ça va défigurer le paysage.
On peut dire que par là-bas, il y a aussi des propriétaires de laboratoires, notamment, qui ont des maisons fabuleuses par là-bas. Peut-être qu'effectivement, on peut penser que ces intérêts-là n'ont pas été pris en compte par les écologistes.
C'est possible. Mais bon, pour moi, c'est un peu la même chose pour tout le débat sur les éoliennes qui impacte donc le quotidien de milliers de personnes. Mais on met pas dans la balance, finalement, l'urgence écologique qu'il y a derrière à devoir trouver des solutions alternatives à l'usage de la voiture thermique. Voilà, donc je trouve que c'est un faux débat de se dire, il y a la défense d'intérêts privés d'un côté et puis le bien commun de l'autre.
On est exactement dans ces questions-là au plan politique. Quand on voit aujourd'hui que même sur le nucléaire, il semblerait que la bataille culturelle se renverse.
Ça me désespère un peu parce que ça fait des années qu'on sait qu'on va dans le mur en termes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc j'ai l'impression que maintenant qu'on est au pied du mur, qu'on n'a plus d'autres solutions, en fait on vient chercher des fausses solutions qui, comme le nucléaire qui effectivement est une énergie décarbonée mais qui a bien d'autres inconvénients et puis un caractère de dangerosité qui est quand même indéniable. Et au final, j'ai l'impression que ça témoigne d'une crise démocratique, parce que là, la dernière fois qu'on s'est vu, j'en étais à envisager de pas voter. J'ai toujours pas fait mon choix, mais franchement, il y a aucun engouement. Honnêtement, il y a aucun candidat qui emporterait comme ça demain matin ma décision. J'ai l'impression que aujourd'hui que d'aller voter, ça changera pas grand chose. C'est pour ça que je parle de crise de la démocratie. On parlait tout à l'heure du projet de funiculaire à Lyon ou la question des éoliennes. C'est qu'il n'y a pas de vrai débat démocratique sur ces questions. Il n'y a pas de mise à plat de tout ça. On a eu l'exemple avec un président qui a lancé une convention citoyenne et qui s'est assis dessus aussitôt les conclusions rendues. Enfin, c'est désespérant, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les présidents ont une marge de manœuvre qui est très réduite par rapport aux lobbies économiques. Alors, il y en a qu'un qui, à mes yeux, pourrait éventuellement essayer de renverser un peu la table et changer la manière dont on exerce la politique et qui serait capable de remettre le peuple au centre de la décision, c'est Jean-Luc Mélenchon qui propose une 6e République. Alors après, il faut voir ce qu'il met dedans, mais voilà, à mon sens, il y a effectivement un renversement qui doit être proposé pour voilà, changer les choses de manière beaucoup plus radicale.
Le feuilleton 5 Français dans la campagne, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, le traditionnel banquet Nobel qui rassemble les lauréats de l'année ne se tiendra pas cette semaine à Stockholm à cause de la pandémie. Les diplômes seront remis aux lauréats de l'année dans leurs pays respectifs. Et vous nous faites aujourd'hui imaginer une scène improbable. Freud recevant le Nobel des autorités d'Autriche qui ne l'aimait guère.
Oui, remis peut-être par l'ambassadeur de Suède, mais ça n'aurait pas été mieux. Freud nobelisé, c'est une histoire impossible. Marlène Bellilos présente un petit livre collectif qui compte les mésaventures du bon professeur Sigmund et de ses amis qui espérèrent en vain la suprême récompense un nombre incalculable de fois entre les deux guerres. C'est le prix de physiologie et de médecine qui a été visé d'abord. Une assemblée tournante, issue du grand hôpital de Stockholm, le Karolinska Instituten, assurait le choix, comme aujourd'hui, et quelques grands professeurs firent son siège avec ténacité. Un lobby plus mondain les assistait, animé notamment par la protectrice de Freud dans le Gotha européen, l'inénarrable princesse Marie Bonaparte. Mais rien n'y fait. La haute société médicale de la capitale suédoise demeure hostile à la psychanalyse. Le mental en soi inconscient, traversé d'instincts sexuels, mes adversaires ne l'accepteront jamais, observe Freud. Albert Einstein, qui n'en est pas un, exprime lui-même son doute fondé sur la traditionnelle démarcation des disciplines. En quoi, demande-t-il, l'œuvre même géniale d'un psychologue pourrait-elle se situer dans le champ du Nobel de médecine ? Freud réagit en fataliste. « Oh, cher ami Einstein, je savais depuis toujours que vous ne m'admiriez que poliment. » Et il lui souhaite de vivre assez longtemps pour changer d'avis. Quant au ponte qui lui ferme la porte, Freud n'espère plus, les échecs et les années s'accumulant, tenir jusqu'à ce qu'il passe de vie à trépas.
C'est joli, admirer poliment. En fait, une vraie question que j'en étais posée, est-ce que la psychanalyse est une science ?
Ses praticiens aujourd'hui ne l'affirment plus, ils la présentent simplement comme un savoir qui se construit dans l'expérience du réel, mais Freud portait son pavillon plus haut. Il espérait que tout en faisant reculer l'ombre de la religion, elle atteindrait des vérités fondamentales. Encore fallait-il suffisamment d'exemples, de preuves.
Bon, mais il n'y a pas que le Nobel de la médecine. Le Nobel de médecine, il y en a d'autres.
Oui, il y a l'idée du Nobel de la paix qui est caressée en 38 par certains des partisans de Freud qui vient d'être chassé d'Autriche par l'Anschluss qui a amené les nazis à Vienne. Et puis, il y a le Nobel de littérature. Alors, à 82 ans, ruiné par l'exil, Freud serait content de toucher la dotation, mais il voit bien qu'une récompense littéraire confirmerait qu'il n'est pas un savant. Mais c'est pas cette réserve qui peut empêcher d'agir. Marie Bonaparte, à Vienne en 38, elle s'est tenue dans l'escalier de Freud pour empêcher les jeunes nazis de pénétrer chez son maître et de son hôtel particulier. Elle agite tout son petit monde, à commencer par Romain Rolland. Toujours en vain. Freud va renoncer définitivement l'été 38, ajoutant « Ma fille Anna n'aura jamais à aller chercher le prix ».
Cette année, ceux et celles qui ont la chance d'avoir été distingués ne pourront pas rejoindre Stockholm.
Ben, vous connaissez la parabole de Saint-Simon, le socialiste, qui avait imaginé un accident qui balayait toute l'élite mondiale des savants vivants. La cata absolue. Eh bien, le banquet Nobel dans la salle bleue de Stockholm, c'est plus de 1200 personnes. Vous voyez d'ici l'hécatombe si, par malheur, donc pas de caviar de Calix, ni de Girolles de la Forêt, ni de Françoise de Trellenborg. Simplement, en plein air, dans la ville, toutes sortes de propositions lumineuses, un peu comme à Lyon hier. L'une d'elles reprend une phrase d'Albert Camus, « Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière ». Alors, à ce propos, souhaitons que sorte de l'ombre certaines archives des comités Nobel, Marlène Bellilot s'est vue refuser par deux fois l'accès aux documents qui auraient pu expliquer les raisons mises en avant pour barrer la route à Freud.
Oui, Marlène Bellilot qui a piloté ce livre, Le Nobel et Freud, une histoire impossible, édité par Michel de Maulle. Bonjour Mathieu Vidard. Ben non,
bonjour,
pas
bonjour. Bonjour.
Oui, si, il est là, je ne vous entendais
et
pas.
Et nous allons parler des vaches dans un instant avec nos invités.
D'accord, à tout de suite.